Il est préférable, dit Caïphe, qu'un homme meure et que tout le peuple soit sauvé. C'est une phrase épouvantablement scandaleuse pour nous. Elle est épouvantablement scandaleuse, surtout parce que c'est avec cette phrase-là que Jésus a été condamné. Et pourtant, finalement, nous sommes souvent bien à même de dire la même chose. Et nous pensons, je crois, bien souvent un petit peu comme Caïphe. Il vaut mieux sacrifier une personne pour sauver le plus grand nombre. Nous croyons et souvent nous enseignons que l'intérêt général passe avant les intérêts particuliers ou avant les convenances personnelles. Et la valeur même de la démocratie, c'est bien cela, c'est de dire le plus grand nombre mérite que ce soit lui qui dirige, que ce soit l'opinion du plus grand nombre qui prédomine. Et on vote pour savoir ce qui est bien, ce qu'il faut faire, et finalement même qui a raison et qui a tort. Au nom également de ce principe de Caïphe, nous mettons les voleurs, les marginaux, les déviants en prison, en pensant que c'est bien triste que ces personnes non intégrées à la société souffrent dans une prison, mais néanmoins, il vaut mieux qu'un assassin souffre en prison et que le monde lui-même, le peuple lui-même, ne soit pas dérangé par ses agissements déviants. Et plus vrai encore, je dirais au cours dans les situations de guerre, par exemple pendant la guerre de 40, à peu près la majorité des gens pensaient que tuer un Allemand, ce n'était pas une chose épouvantable dans la mesure où il valait mieux tuer un ennemi à la guerre pour empêcher une idée perverse comme le nazisme de se développer dans le monde. Donc oui, il vaut mieux qu'un homme meure et privilégier le peuple, privilégier le plus grand nombre. Et pourtant, je vous disais, même si nous pensons que cela est vrai, l'Évangile lui-même nous fait réfléchir quand même à cela en disant, mais attention, c'est avec ce type de raisonnement qu'on a mis à mort le Christ. Et Caïphe ne peut pas être présenté comme l'exemple même, je dirais, du juste raisonnement. Et il est vrai que si Jésus est mort, je dirais, par l'opinion du plus grand nombre, le Sanhédrin dont on a parlé et qui va condamner d'une certaine façon le Christ, était un tribunal dans lequel la démocratie était tout à fait de mise. Et donc on votait pour savoir si une personne méritait la mort ou non. Alors faut-il privilégier le groupe ou faut-il privilégier l'individu? L'Évangile de Jean ne nous donne pas une réponse simple. Parce que nous avons cette phrase de Caïphe, « Il vaut mieux qu'un homme meure et que le peuple entier soit sauvé », présentée comme donc une horreur. Et pourtant, l'Évangile de Jean met ensuite un développement compliqué en disant « Mais vous savez, dans le fond, Caïphe n'avait pas entièrement tort. » Et que ce qu'il disait là, c'était, dit l'Évangile de Jean, une prophétie, c'est-à-dire une parole divine en quelque sorte. Alors cette parole est-elle juste ou est-elle injuste? Eh bien, je crois que nous sommes dans l'ambiguïté et qu'elle peut être à la fois juste et fausse. Tout dépend du contexte dans lequel on la met, ou tout dépend de la valeur que l'on accorde à ce moment-là à l'individu. Et il y a donc deux façons, je dirais, d'entendre cette phrase de Caïphe, une bonne et une mauvaise. Il y a la mauvaise manière, qui est celle de Caïphe, qui considère que on peut nier un individu au profit du groupe, parce que l'individu ne vaut pas grand-chose par rapport à un groupe, et il vaut mieux tuer un homme et sauver le peuple. Et puis il y a une autre manière d'entendre cela, qui dit tout le contraire, qui est la façon avec laquelle Dieu lui-même va comprendre ce passage, en quelque sorte. Et que Dieu va dire, mais finalement ce que disait Caïphe, c'était une prophétie, parce qu'il est vrai qu'il vaut mieux qu'un homme meure pour sauver le peuple, et c'est bien ce qui va se passer. Jésus meurt, et lui, individu solitaire, par sa mort, donne un bienfait considérable à l'ensemble du peuple. Parce que l'interprétation divine de cette phrase n'est pas dans le sens de nier la valeur à l'individu, mais au contraire, de lui donner une valeur infinie, et que donc la mort du Christ n'est pas une chose secondaire que l'on peut passer par profits et pertes devant l'avantage que l'on peut en retirer pour le peuple, mais au contraire, la mort du Christ est quelque chose qui a en soi-même autant d'importance que la valeur même du peuple. Je crois que, effectivement, nous avons là, nous touchons du doigt la question essentielle, qui est la question de la valeur du nombre. Or, dans la Bible, le nombre n'est jamais tellement considéré comme une bonne chose ni comme un critère de valeur. Et depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, il y a cette idée récurrente qui est que la quantité n'est pas une qualité, que le nombre ne vaut pas forcément grand-chose, que l'important, c'est la qualité. On pourrait même dire que c'est peut-être un des points fondamentaux de la pensée juive et de la pensée chrétienne, qui est justement de sortir d'une conception matérialiste du monde. Les objets, on peut les compter, et celui qui est riche va compter ses sous, et plus il a de sous, plus il se considérera comme riche. Alors que justement, la conception non matérialiste du monde, c'est de s'attacher à des objets qui ne sont pas dénombrables, de s'attacher à des valeurs que l'on ne peut pas compter, que l'on ne peut pas poser les unes à côté des autres comme des petits pains. Et justement, le non-matérialisme, c'est de croire que l'essentiel est invisible pour les yeux et que cet essentiel, il est incomptabilisable. On ne peut pas le dénombrer et ce n'est pas le nombre qui compte, c'est sa valeur en quelque sorte. De là se trouve quelque chose qui est bien connu, qui est dans l'Ancien Testament l'interdiction de dénombrer le peuple. On dit très à loisir que dans l'Ancien Testament, il était interdit de dénombrer le peuple et que c'était un péché. Or, je ne crois pas que cela soit dit explicitement où que ce soit. Jamais Dieu n'interdit de dénombrer le peuple. Mais on se rend compte que chaque fois que quelqu'un veut faire un dénombrement du peuple, c'est considéré comme quelque chose de très mal et de très mauvais. On le voit en 2 Samuel 24. Quand David veut faire un dénombrement du peuple, et Dieu est tout à fait furieux et va imposer une punition à David et au peuple en général. Et puis il y a également d'autres passages comme celui de Juges au chapitre 7, avec l'histoire de Gédéon qui doit combattre les ennemis d'Israël. Et il part avec une très grande armée, et Dieu, par des tas de procédés assez amusants, va progressivement lui faire diminuer le nombre de son armée jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'une poignée d'hommes. Et il lui explique que s'il fait cela, c'est bien pour lui montrer que la valeur d'une armée n'est pas dans le nombre de ses hommes, mais elle est dans sa valeur, dans sa qualité intérieure. Et toute cette interdiction donc de dénombrer le peuple est quelque chose de fondamental dans la pensée juive, de dire la valeur d'un groupe ne dépend pas de son nombre, elle dépend de ses convictions, de sa foi, de sa qualité, de sa valeur, de ce qu'elle est en elle-même. Alors cela, il est bon de nous le rappeler. Effectivement, le nombre, la majorité en quelque sorte, n'est pas un critère de valeur. Ce n'est pas un critère ni de valeur, ni de vérité, ni de supériorité dans aucun domaine. Et pourtant, nous tombons tous dans ce piège. Nous tombons là aussi tous dans ce piège et nous sommes tous à nous dire que ce serait beaucoup mieux qu'il y ait plus de monde au culte ou plus de monde à l'étude biblique. Et on regarde avec envie certaines églises émergentes qui ont des églises, des salles pleines et on se dit « Ah, eux au moins, ils ont quelque chose que nous n'avons pas ». Eh bien, peut-être, cela n'empêche pas. Mais le monde, la fréquentation d'un lieu ou d'une église n'a, à mon avis, aucune corrélation nécessaire avec la vérité qui y est prêchée ou avec la valeur profonde de ce qui s'y passe. Le but d'une église, ce n'est pas d'avoir du monde, c'est d'annoncer l'évangile. Le but d'une église ou d'une communauté chrétienne, ce n'est pas de racoler, en quelque sorte, mais c'est de faire ce qu'elle croit vrai. Pour avoir du monde, eh bien, on n'a qu'à remplacer le culte par une discothèque, et à ce moment-là, ou par un centre commercial, il y aura beaucoup plus de monde. Mais la question, justement, n'est pas là. Parce que la valeur n'est pas le nombre, et le nombre n'est pas un critère de la vérité de la foi, ni même de la qualité de cette foi. Et quand on regarde ce qui s'est passé avec le Christ, eh bien on peut être assez touché aussi que, peut-être pas dans les mots, mais dans l'histoire elle-même, il y a là une remise en cause très profonde, non pas des valeurs de la démocratie, mais d'une idolâtrisation de la démocratie. C'est que quand le Christ a commencé à avoir des problèmes avec le peuple, justement, et qu'il se retrouve arrêté à Gethsémané, à ce moment-là, il n'y a plus que 12 personnes autour de lui. Et quand Jésus est sur la croix, il est tout seul. Et pourtant, c'est lui le Fils de Dieu, c'est lui le Fils de l'homme, et c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Lui qui est seul sur la croix. Et où est à ce moment-là la voix du plus grand nombre? Où est la valeur? Où est la voix du peuple? Eh bien, le peuple, il est unanime. Et il crie au pied de la croix, « Crucifie-le !» Alors, vous voyez, cela est tout à fait essentiel pour montrer que la majorité en elle-même n'est certainement pas un critère de vérité. Et il ne faudrait pas non plus me faire dire que la démocratie n'est pas une bonne chose. Je crois que la démocratie est une bonne chose, mais comme mode de gouvernement, non pas comme procédé pour savoir ce qui est vrai, de ce qui n'est pas vrai, ce qui est bon, de ce qui est mauvais. Si la démocratie est bonne, et je crois qu'elle l'est, en tout cas sous nos latitudes, c'est que cela consiste à prendre les gens comme des adultes responsables. Et là encore, je crois qu'il y a dans le fondement même de la démocratie quelque chose de très essentiellement évangélique. C'est que le Christ, dans tout son évangile, n'a jamais voulu infantiliser ses disciples. Mais au contraire, il les a renvoyés à leur propre responsabilité en leur faisant confiance. Et je crois que la démocratie, c'est une façon de faire confiance aux gens, de faire confiance au peuple et de faire confiance à tout le monde. Il est vrai que cette confiance est parfois un peu donnée facilement et qu'un bon nombre de nos contemporains, de nos concitoyens ne méritent pas cette confiance qu'on leur fait en leur demandant de choisir qui va les gouverner. Probablement, mais ce n'est pas la question. Il y a un a priori de dire « je fais confiance et je veux considérer mes concitoyens comme des adultes responsables ». Peut-être qu'ils ne le sont pas encore entièrement, mais ce n'est pas la question, je veux les considérer comme tels. Et l'Évangile fait la même chose avec nous. Et je crois que surtout dans le protestantisme, nous avons justement cette même idéologie de vouloir a priori considérer les gens comme adultes et responsables et de renvoyer chacun à sa propre responsabilité en pensant qu'il n'y a à personne à imposer à quelqu'un ni ce qu'il croit, ni ce qu'il a à faire, ni ses convictions, ni ses engagements. Et donc chacun est renvoyé à sa propre responsabilité parce qu'a priori, on fait confiance. Et donc c'est pourquoi la majorité est une chose absolument fondamentale. Mais cela ne veut pas dire qu'elle soit un critère philosophique de la vérité. Et il est évident qu'un individu seul peut avoir raison contre 100 autres. Et ce n'est pas que parce que tout le monde a tort contre moi qu'ils ont raison, pourrions-nous dire. Alors donc le nombre n'est pas un critère de valeur, et on pourrait même dire le contraire d'ailleurs, c'est que très souvent le plus grand nombre, nous l'observons, est plutôt critère de moindre valeur. Il faut regarder par exemple les disques musicaux ou les pièces musicales les plus téléchargées ou les disques les plus vendus, ce qu'on appelle le top 50. Eh bien dans le top 50 il n'y a ni Bach ni Mozart, et pourtant je crois que effectivement ces œuvres qui sont les plus achetées ne sont certainement pas les plus grandes œuvres de l'humanité. De même, l'audimat en quelque sorte de la télévision est un piège, parce que à vouloir chercher le plus d'audience, on sait très bien que cela ne se fait pas toujours au profit de la qualité elle-même. Et donc le plus grand nombre est souvent opposé à la valeur elle-même. Mais ce n'est pas une question pour remettre en cause, je dirais, le mode de gouvernement qui est la démocratie. Et puis il y a encore autre chose, un autre point justement que l'on doit prendre avec attention concernant cette loi du plus grand nombre. Et cela, je crois que nos pays et même nos lois y font à peu près garde, mais il faut y faire très attention. C'est que même si on demande au plus grand nombre de choisir de voter pour se déterminer dans son mode de gouvernement, cela ne veut pas dire qu'il faille négliger ou mépriser les minorités. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que la démocratie, ça consiste à penser que ceux qui ne pensent pas comme tout le monde n'ont pas droit à la parole. La démocratie se doit, bien sûr, de respecter les minorités. Et de ce point de vue-là, les protestants ont toujours été très sensibles à cela, surtout en France, où ils sont très minoritaires. Et en effet, cela ne voudrait rien dire que de dire « bon, on va faire un vote pour savoir quelle est la religion chrétienne que l'on a le droit d'avoir en France ». Eh bien, les protestants pourraient simplement ne pas avoir le droit d'exercer leur culte. Mais non, ce n'est pas parce qu'un individu est minoritaire qu'il n'a pas le droit de penser ce qu'il pense, ni de l'exprimer, ni de le vivre. Parce qu'il y a une limite, évidemment, dans la démocratie. Et la démocratie mal vécue, la perversion de la démocratie, ce serait, comme disait je ne sais plus quel humoriste, de faire voter un collège de 9 loups et 1 brebis, quel sera le menu du soir ? Eh bien, effectivement, dans ce cas-là, on voit bien que la brebis serait mangée par les loups. Mais la démocratie ne peut pas aller jusqu'à ce point-là. Et on voit cette valeur, justement, de l'individu seul. Elle est aussi sans arrêt rappelée dans l'Évangile. Je pourrais prendre simplement quelques exemples. Dans l'Ancien Testament, quand Abraham intercède pour Sodome, où effectivement Dieu veut détruire tout Sodome parce que globalement il y a de l'injustice en Sodome. Et Abraham va négocier avec Dieu en lui disant jusqu'à la limite, oui mais Seigneur, et si dans la ville il y en avait même simplement 10 qui étaient justes, est-ce que tu détruirais l'ensemble de la ville ? Et Dieu dit non, même s'il en reste 10 justes dans la ville, pour ces 10 justes, je sauverai la ville. Et donc premier point effectivement dans l'histoire de la Bible, cette valeur donnée à cette extrême minorité des 10 justes dans la ville qui change le cours de décision même de Dieu, qui accepte tout à coup de ne pas prendre en considération le plus grand nombre, mais de prêter une considération extrême au plus petit nombre des 10 qui sont sauvés. Et dans le Nouveau Testament, je prendrai simplement l'exemple de l'histoire de la brebis perdue, bien sûr, qui donne là également une valeur infinie à l'individu. La brebis perdue, quand le berger laisse les 99 brebis pour aller chercher la brebis seule qui est perdue, et que quand il la trouve, il la met sur ses épaules et il la ramène, et on dit qu'il y a plus de joie pour cette seule brebis que pour les 99 autres, c'est une démarche tout à fait antidémocratique, je dirais. Le berger ferait mieux de s'occuper des 99 autres et d'oublier la petite brebis perdue. Mais non, justement, ce n'est pas la position de la Bible, qui est toujours, je dirais, un certain, pas un individualisme, mais une certaine attention donnée à l'individu. C'est que chaque individu a une valeur unique, a une valeur fondamentale, et aucun individu ne mérite qu'on oublie qu'il existe et qu'il a le droit d'exister, qu'il a le droit de penser et d'être dans ce monde, même s'il est différent des autres. Le fait d'être différent des autres est même, d'une certaine façon, la qualité essentielle. Il ne faut pas oublier que l'idéal du chrétien, c'est d'être ce que l'on appelle un saint. Or, dans la Bible, saint ne veut pas dire parfait. Un saint, ça veut dire différent du reste. Le saint, c'est celui qui n'est pas comme tout le monde. Et Paul dira d'une même chose dans l'Épître aux Romains en disant « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez renouvelés par, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ne vous conformez pas au monde présent, parce que vous n'êtes pas comme tout le monde. » Mais justement, le chrétien, c'est quelqu'un qui est différent par rapport aux autres et qui assume la possibilité d'être minoritaire, d'être le seul, d'être comme le germe, ce petit grain de levain que l'on met dans l'ensemble de la pâte, et la pâte ne lève que parce qu'il y a ce petit grain de levain, que parce qu'il est le sel de la terre, mais la terre n'est pas entièrement du sel. Que parce qu'il est justement cette petite chose, cette petite quantité, ce petit reste dont parlent les prophètes d'Israël, ce reste minuscule, minime, mais qui donne le sens à l'ensemble de l'humanité, à l'ensemble du peuple et à l'ensemble du monde en soi-même. Et donc il ne s'agit pas, je dirais, d'oublier l'individu, mais au contraire de faire ce qui est juste soi-même sans préoccupation du nombre, sans préoccupation des quantités, mais toujours avec une quête de la qualité dans tous les domaines, une quête de la valeur et une quête personnelle de la vérité. L'individu, de même, peut se convertir au dernier moment de sa vie, et donc un acte ponctuel dans son existence peut sauver, je dirais, l'ensemble de son existence, et on pourrait dire que c'est ainsi dans cette quête, dans cette valeur de l'individu, que la Bible nous enseigne qu'est heureux celui qui ne mise pas sur la quantité, mais qui mise sur la qualité, parce que la qualité, c'est celle des bons trésors que personne ne peut nous retirer, et que la qualité, elle, par-delà la quantité, est ce qui hérite de l'incorruptibilité et de la vie éternelle. Amen.